Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, alors nous allons parler science aujourd'hui, science mais imaginaire, c'est des choses qu'on nous pose parfois, et puis il n'y a peut-être pas lieu. Alors pour parler de cela, nous sommes avec Frédéric Feu. Bonjour Frédéric Feu.
Bonjour.
Alors vous occupez du CIST, C-I-S-T, Centre de l'imaginaire scientifique et technique. Voilà, donc les deux termes sont dans l'intitulé. Alors qu'est-ce que c'est que le CIST et pourquoi cette association entre imaginaire et science? Beaucoup de gens se disent la science c'est l'opposé de l'imaginaire.
C'est un peu fait exprès, c'est une petite provocation. C'est une association qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine et qui, à l'origine, réunit des gens qui avaient deux passions. D'un côté, on était tous passionnés par les sciences et les techniques. Beaucoup d'entre nous sont des chercheurs, des ingénieurs, des gens qui travaillent dans différents métiers autour des sciences et des techniques, des enseignants aussi. Donc on avait envie de faire connaître les sciences et les techniques, d'aider à booster une connaissance des métiers, des pratiques, des disciplines. Et puis d'un autre côté, honnêtement, on était tous bien des bons geeks. Hein, on était des fans absolus de science-fiction, heroic fantasy, polar technique, des bouffeurs de manga, de jeux vidéo, de choses comme ça. Et on est allé dans deux sens. D'un côté, on s'est servi très souvent de référence à l'imaginaire pour faire comprendre les sciences et les techniques. Et dans l'autre sens aussi, on est allé auprès des créateurs de l'imaginaire, des écrivains de science-fiction, des créateurs de jeux vidéo et tout, pour nourrir des contenus scientifiques et techniques pour les aider dans leur création. Il y en a plusieurs qui sont des créateurs chez nous dans ces domaines-là. Du coup, ça faisait deux axes qu'on a collé les mots ensemble, quoi. Mmh, et ça fonctionne bien. C'est un peu, en fait, en France, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les centres de culture scientifique et technique, qui sont des endroits et des équipes qui font connaître les sciences et les techniques. Et parfois, elles s'appuient sur un domaine de savoir. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le monde minier? Qu'est-ce que c'est que la pêche? Qu'est-ce que c'est que l'astrophysique? Nous, c'est l'imaginaire scientifique, le travail sur les imaginaires populaires, avec des grosses collections, plein de choses qui permettent de mobiliser ce savoir-là, ce savoir populaire, et de le confronter à la science et à la technique.
Alors, on pourrait dire, en tout cas en France, mais je pense dans d'autres pays, c'est pas une démarche entièrement nouvelle, parce que quand vous dites ça, je me dis, on va bien sûr penser à Jules Verne, qui a développé tout un imaginaire... s'appuyant très fortement sur les sciences et généralement documenté sérieusement.
On peut penser à Voltaire, à Fontenelle.
On peut remonter plus loin.
Ah oui. De toute façon, la science, la méthode scientifique contient une part d'imaginaire. On est bien obligé de prévoir des expériences, de prévoir des observations, d'imaginer ce qui va se passer avec des erreurs qui font partie de la connaissance, avec toutes ces choses-là. Donc il y a une partie qui n'est pas le réel avéré, qui est des choses qui sont à côté et qui font partie de la culture scientifique. Donc évidemment, tout au 19e siècle, ça a été l'explosion, puisqu'il y a eu la culture populaire, vraiment, qui est née avec la possibilité d'avoir des médiums qui approchent la population, l'école pour tous, enfin, des choses comme ça. Et évidemment, on se sent toujours un peu les héritiers d'un Jules Verne, quoi.
Il y a du Jules Verne en vous un petit peu.
Ah, il y a du Jules Verne, il y a du Spielberg, il y a tous ceux qui ont envie à un moment de s'amuser avec l'idée de science et de technique et puis de faire découvrir certaines choses en même temps, quoi.
Après, je me disais, l'imaginaire qui permet aux sciences de progresser, c'est aussi parce que des chercheurs, à un moment, se disent, imaginent que ça pourrait être ça, qu'ils vont aller le vérifier, et puis qu'ils vont découvrir si c'est vrai ou si c'est pas vrai.
Voilà. Et y a des fonctionnements qui sont spectaculaires dans ce domaine-là. Aux États-Unis, en France, avec l'Agence spatiale européenne, il y a même eu des programmes de recherche qui ont été basés sur demander à tous les écrivains, à tous les passionnés de science-fiction, quelles seraient les autres méthodes pas utilisées encore pour essayer d'aller dans l'espace, de survivre pendant un voyage, des choses comme ça. Donc l'imaginaire, quand on dit la réalité dépasse la fiction, c'est juste une aberration. Ce que le cerveau humain est capable d'imaginer librement, sans toutes les contraintes possibles de la réalité, c'est tellement gigantesque qu'après, quand on en fait des diagnostics, on se retrouve avec des millions d'idées à travailler, quoi. Donc ça marche avec des astrophysiciens ou avec des gamins de CM1. Hein. Donc,
Oui, oui, en fait, il faudrait plutôt dire que c'est la réalité essaye de court après la fiction.
Voilà, il y a toujours, c'est les trois quarts du temps, quand arrive une nouvelle innovation, on peut trouver des pistes qui montraient que c'était déjà dans l'air du temps, chez tel et tel auteur, tel et tel réalisateur. Il y a déjà plein de choses qui ont été imaginées. Il y a un grand pas chaque fois avec le réaliser, hein, techniquement. Il y a quelques millions de tonnes de pages de calcul et de trucs comme ça en général derrière.
Oui, oui, qu'on ne voit pas et puis qui seront... Oui. Pour le commun des mortels, c'est un peu incompréhensible.
Oui, c'est la base de la vulgarisation des sciences. On dit Galilée a observé avec une lunette, il a vu les mouvements de la Lune. Et on oublie derrière de montrer les pages de calcul.
Oui, oui.
C'est parce que voilà. Ça, ce n'est pas sexy...
Oui, et puis je ne sais plus quel chercheur grec avait réussi à déterminer avec pas mal de précision la taille de la Terre,
sa
rotondité et sa dimension.
Ces gens-là ont tous travaillé sur des choses comme ça.
Mais il y a du calcul derrière.
Oui.
Il y a de la méthode et il y a du calcul. Alors, les activités du Centre de l'imaginaire scientifique et technique, c'est quoi ? Bon, là, on entend la philosophie, mais comment vous relayez ça auprès du grand public ?
Méthode de travail, on aime bien, on propose nos sujets. C'est-à-dire qu'on n'est pas des mercenaires de la science ou avec le besoin, enfin, avec des gens qui demandent qu'on fasse tel sujet. On a nos sujets à nous, sauf que depuis le temps, on en a développé tellement que ça colle quasiment toujours avec quelque chose qui est en train de se faire. Il y a toujours un besoin de raconter le passage des dinosaures aux oiseaux, ou est-ce que maintenant on le sait, les oiseaux sont des dinosaures. Il y a toujours des sujets là qui arrivent, la protection de l'environnement, le réchauffement climatique, les évolutions de la médecine, des tas de choses comme ça, des choses qu'on a déjà croisées et qu'on est en train de travailler. Et du coup, à partir de ces corpus de recherche qui fait qu'on ne dort pas beaucoup la nuit, par contre, après, on peut faire plein de choses. On peut faire des ateliers scolaires, des très grosses expositions, des projections, plein de sortes d'événements. D'accord. Là, prochainement, j'espère qu'on en parlera après, on a un festival.
C'est prévu, on va en parler.
On a un festival sur l'histoire, les sciences et l'histoire des sciences, qui est un mix de toutes ces choses-là, quoi.
Oui, histoire des sciences qui est aussi une histoire humaine, qui n'est pas juste une histoire scientifique.
C'est
une histoire humaine, économique, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Hein.
Mais l'histoire elle-même, déjà, s'est beaucoup rénovée ces 40 dernières années. On fait des approches avec plein de manières de voir les choses qu'on n'avait pas utilisées, qui fait que l'histoire, lire un livre d'histoire d'historien à la pointe de la recherche aujourd'hui, sur n'importe quel sujet qu'on connaît déjà, c'est une énorme claque sur ce qu'on pensait connaître.
Oui, ce qu'on a appelé la nouvelle histoire à l'époque de l'école des annales, elle a fait progresser l'histoire, elle a changé les objets, elle a changé les méthodes. Mais et puis les connaissances...
Mais c'est valable.
Les bonnes connaissances sont maintenant des erreurs quasiment, très souvent.
Mais c'est valable un petit peu dans tous les domaines. Il y a une progression, puis il y a des retours en arrière, puis on se rend compte que quelque chose était une erreur à un temps donné, mais qu'on va pouvoir le corriger, on a des nouvelles méthodes. Mais c'est valable pour faire un sandwich, hein. Donc l'humanité avance, quoi.
Bon, alors, on va prendre...
Parfois pas dans la bonne direction, mais elle avance.
Elle avance, voilà. Alors, on va prendre justement le temps de prendre un sandwich, et puis on se retrouve dans quelques minutes pour parler du festival « Pourquoi faire tant d'histoires à l'ODEV ?»